Qui vous a dit que l'Église est un club de saints? Qui vous a dit que l'Église allait vous donner le bonheur? C'est pas faux, mais ça va pas commencer par ça. Vous savez, nos déceptions sont à la mesure de nos attentes. Et nos attentes, elles ne sont pas toujours réalistes. Elles sont souvent égoïstes. Et ceux qui ont été déçus s'attendaient probablement à ce que l'Église soit justement un club de saints qui allait répondre à tous leurs besoins et que l'Église allait leur donner le bonheur. Et ils se sont rendus compte que la réalité était finalement différente. Mais alors, on peut se dire à qui la faute? Si mon attente n'a pas de sens, n'est pas en contact de près ou de loin avec la réalité, c'est ma faute ou la leur? Quand on regarde l'Église primitive, on se rend compte qu'elle est extrêmement humaine, cette Église. Et à bien des égards, elle nous ressemble terriblement. Prenez quelques textes avec moi dans le livre des Actes où se trouve l'Église primitive, cette Église vers laquelle nous regardons souvent comme une Église un peu modèle. Permettez que l'on prenne juste quelques textes pour avoir une idée de la question. Actes chapitre 2, verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Fantastique, ça commence d'une manière merveilleuse. Ils étaient tous unis, ils étaient ensemble, et ils étaient dans la prière, il y avait des baptêmes en grand nombre, c'était merveilleux. Un départ fantastique. Tournez quelques pages au chapitre 6 du même livre, au verset 1er, il est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. » Ah ça y est, ça commence à murmurer. Et vous vous souvenez, c'était déjà ce qui se passait dans le désert avec le peuple d'Israël. Ils murmuraient. Tournez quelques pages jusqu'au chapitre 15 du livre des Actes. Actes chapitre 15, au verset 2, il est dit « Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. » Il était question de savoir s'il fallait continuer à suivre les pratiques juives ou si c'était tombé à l'eau, s'il fallait continuer à avancer sans tenir compte de ce que la tradition nous avait donné. Il y avait les uns pour, les autres contre, et vous avez remarqué, ils eurent une vive discussion, un débat. Ça y est, ça discute théologie et ça se bat sur la théologie. Dans le même chapitre, tournez une page, juste après le concile de Jérusalem dont il est question ici, Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Voilà, Paul et Barnabas se disputent. Ça y est, voilà les chefs de l'Église qui se disputent. Il y en a un qui veut prendre Jean-Marc, l'autre qui ne veut pas, et ça fait une dispute. Alors maintenant, on peut passer dans les lettres de Paul, pour voir à quoi ressemblent les Églises auxquelles il écrit. On pourrait prendre de nombreux textes, permettez qu'on en prenne juste quelques-uns. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Épître aux Corinthiens, chapitre 1er. Au verset 11, il est écrit « Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Les uns se disent « Moi je suis des Paul », l'autre disent « Moi je suis d'Apollos », les autres disent « Moi je suis de Pierre ». Des rivalités parmi vous. Prenez un peu plus loin dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, au verset 10. L'apôtre Paul écrit ceci à son pasteur, Timothée. Il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Voilà que le matérialisme a saisi l'Église, l'amour de l'argent plus que toute autre chose. Et beaucoup, nous dit le texte, se sont égarés et ont perdu la foi à cause de ça. L'Église, ce n'est pas un club de saints. Et on pense tout d'un coup à cette parabole qui nous a racontée dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, où Jésus va raconter une histoire, l'histoire du grand repas. Vous connaissez cette histoire, un homme va faire un grand festin et il va inviter à l'avance un certain nombre de gens en leur disant « Quand mon repas est prêt, vous venez. » Cet homme prépare son repas et quand il est prêt, il envoie ses serviteurs pour chercher ceux qui ont été invités. Et le premier dit, ah, excuse-moi, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille voir ça. Le deuxième dit, écoute, j'ai acheté un tracteur, il faut que j'aille le chercher. Le troisième dit, moi, je viens de me marier, désolé, je ne peux pas venir. Et le maître est furieux. Et il dit à son serviteur, verset 21, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et c'est avec ces gens-là que le maître va remplir sa salle de festin. Mais tous ces handicapés de toutes sortes, ces aveugles, ces estropiés, ces boiteux, c'est nous. Vous vous souvenez que dans cette parabole, Jésus met en scène ceux qui avaient été invités d'avance. Le peuple hébreu, qui avait reçu les prophéties, qui avait reçu l'invitation à l'avance. Et quand Jésus arrive, ils disent, j'ai autre chose à faire. Alors on va chercher qui ? Ben, ceux que le peuple juif rejetait, les païens, les Grecs, les Romains, tous les autres, nous finalement. L'Église est pleine de ces gens-là, pleine de vous et moi, c'est-à-dire tous des gens qui sont malades, des handicapés du péché, des malades du péché, qui cherchent tous la guérison. Mais tous ces estropiés-là, c'est nous. C'est avec ça que l'Église est faite. Alors ne me dites pas que l'Église, c'est un club de saints. D'ailleurs, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens dire, mais c'est bien plus compliqué pour moi maintenant que je suis dans l'Église que ça ne l'était avant. Mais quelles sont les attentes que j'ai sur l'Église? Je me rends compte que les attentes que nous avons sur l'Église sont parfois même des attentes que nous n'avons pas sur nous-mêmes. On attend peut-être de l'Église qu'elle réponde à tous nos besoins. On attend de l'Église qu'elle s'occupe de nous, qu'elle nous donne beaucoup d'amour et qu'elle nous porte quand il y a la moindre difficulté. C'est vrai que c'est aussi l'objectif de l'Église. Mais la réalité, c'est que souvent nous sommes déçus parce que nos attentes ne correspondent pas nécessairement au plan que Dieu a pour son Église maintenant. On a dans l'épître de Paul aux Éphésiens un texte intéressant où l'apôtre Paul nous précise quel est l'objectif, quel est le plan, quel est le projet de Dieu pour son Église. Éphésiens chapitre 5. Nous avons lu tout à l'heure depuis le verset 22. Permettez que nous lisions à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous avez remarqué dans ce texte, il est dit que l'objectif que Dieu a pour l'Église, c'est de la sanctifier et de la purifier. Autrement dit, l'Église est entre les mains de Dieu un outil de sanctification pour chacun d'entre nous. De manière à ce que cette Église, finalement, arrive à être sans rides, sans taches, sans rien de semblable, et c'est à ce moment-là qu'elle sera une source de bonheur incroyable. Si vous revenez une page en arrière au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, dès le verset 1, nous retrouvons une idée semblable. L'apôtre Paul écrit ceci à cette Église d'Éphèse. Chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous avez remarqué ? On est invité à se supporter les uns les autres. Si l'apôtre Paul nous invite à nous supporter les uns les autres, c'est que nous avons naturellement un petit peu de mal à le faire, vous ne pensez pas? Et l'Église n'est pas un club de saints. L'Église a été inventée par Dieu comme un outil de sanctification. Et dans la mesure où nous acceptons cet outil que Dieu a inventé pour nous changer, à ce moment-là, nous trouvons le bonheur dans l'Église. Dieu veut travailler à notre sanctification. D'ailleurs, pour peu que vous ayez passé un certain temps dans l'Église, vous avez remarqué que vous trouverez dans l'Église des difficultés que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Mais ça, ça fait partie de cet outil que Dieu a conçu pour nous changer, pour nous transformer, pour nous préparer pour l'éternité. Que voulez-vous, dans l'Église, il nous faut travailler avec des pécheurs, avec d'autres pécheurs, et des pécheurs que nous n'avons pas choisis. Si nous allons faire du golf, nous allons choisir les amis qui, comme nous, aiment jouer au golf. Mais dans l'Église, on ne les a pas choisis, les amis. Ils nous sont donnés parce qu'ils sont là et il faut faire avec. Alors vous comprenez, cet outil de sanctification qu'est l'Église est vraiment bien choisi parce que pour travailler avec des orgueilleux, va nous falloir de l'humilité. Pour travailler avec des ambitieux, va nous falloir du renoncement. Pour travailler avec des impatients, va nous falloir de la patience et de la persévérance. Pour travailler avec des arrogants, va nous falloir de la douceur. En fait, ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous nous rendions compte que nous n'y arrivons pas et que nous allions chercher chez lui la force d'y arriver. Et vous comprenez bien qu'il va nous falloir une liste incroyable de qualités pour pouvoir vivre dans l'Église. J'ai trouvé une liste quelque part de ce qui est nécessaire pour vivre dans l'Église. Écoutez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais sans l'Église, nous n'y arriverions jamais. L'Église est donc, entre les mains de Dieu, un outil de sanctification extraordinairement puissant pour nous amener à préparer un caractère qui soit prêt pour l'éternité. Maintenant, je trouve dans ce texte d'Éphésiens que la famille ressemble énormément à l'Église. Les deux fonctionnent d'une manière très similaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul compare la relation de l'Église avec Christ, avec celle du mariage. Mais qui vous a dit que le mariage apportait le bonheur? Qui vous a dit que le mariage allait répondre à tous vos besoins? Encore une fois, réfléchissez, et peut-être que pour ceux qui sont plus âgés, ça va demander un effort un petit peu plus important dans le passé, mais réfléchissez au moment où vous avez envisagé le mariage. Souvent, on l'envisage pour de mauvaises raisons. C'est parce que on veut quelqu'un qui nous aime, on veut quelqu'un qui nous apprécie, on veut quelqu'un qui va nous faire des compliments, on veut quelqu'un qui nous sert, on veut quelqu'un qui paye pour nous, on veut quelqu'un qui nous rend heureux. C'est pour ça qu'on se marie, non? Et de cette façon-là, vous vous rendez compte que l'amour prend une définition particulièrement curieuse. Parce qu'on dit, voilà, si tu m'aimes, tu vas m'aimer comme je suis. Et on va dire, voilà, ça c'est l'amour et le respect. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que derrière amour et respect, qui sont des vertus cardinales, on est en train de cacher un égoïsme colossal. Aime-moi comme je suis. On a finalement perdu le sens du mariage selon Dieu. Parce que, qu'on le veuille ou non, en y réfléchissant bien, on a pensé mariage centré sur nous-mêmes. Alors que le mariage que Dieu a conçu est destiné à nous faire devenir ce que nous ne sommes pas encore. Il est destiné à nous transformer. Et quand on commence à comprendre les choses de cette manière, on commence à rentrer dans le plan de Dieu pour la famille. L'objectif, nous faire devenir ce que nous ne sommes pas encore. Autrement dit, le mariage, comme l'Église, est un outil de sanctification. Mais écoutez, quand on arrive dans l'Église et qu'il y a la fameuse marche nuptiale qui joue, la grande robe blanche, etc., vous pensez au mariage comme un outil de sanctification? Vous voyez que c'est un peu différent. Mais au-delà de la fête et des rubans et des robes blanches et des gâteaux, etc., et des petits cœurs qui volent et des flamèches dans tous les sens, il y a une réalité, vous comprenez, qui nous rattrape. Parce que on se croit facile à vivre les uns et les autres. On pense que tout va bien. Et de toute façon, c'est pas difficile. Dans le mariage, on va changer l'autre pour que l'autre puisse s'accommoder à moi. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas, dans notre tête en tout cas. Et puis finalement, avec la réalité, une fois que la robe blanche est rangée et que la belle cravate est dans le tiroir, il y a la réalité du quotidien qui nous rattrape et nous nous rendons compte de nos faiblesses, de nos mauvaises habitudes, nous nous rendons compte des ornières dans lesquelles nous retombons constamment. C'est pour ça que Dieu a fabriqué le mariage pour être un outil de sanctification. D'ailleurs, cet outil est particulier parce que dans le mariage, il y a à côté de nous quelqu'un qui nous connaît mieux que quiconque au monde, notre mari ou notre femme, parce que nous vivons avec tous les jours. D'ailleurs, c'est au point où j'ai plus besoin de parler. Avant que j'aie dit, ma femme sait exactement ce que je vais dire. C'est fantastique, elle lit dans ma tête. Seulement, cette personne qui est à côté de nous et qui nous connaît mieux que quiconque, se trouve, quand on y pense, dans une situation qui ressemble à celle que Dieu a. Parce que qui dans le monde nous connaît mieux que Dieu ? Notre mari et notre femme. Notre conjoint, mari ou femme, est donc la personne la mieux placée pour connaître nos forces, nos faiblesses, pour savoir là où il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la personne que Dieu va utiliser pour jeter de la lumière sur les zones obscures de notre caractère. C'est la personne que Dieu va utiliser pour éclairer ces points aveugles que j'ai dans ma vie, que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir. Mais finalement, ma femme ou mon mari, c'est la personne la mieux placée pour me connaître en profondeur et me dire, là, il y a un domaine qui s'offre à la transformation et à la sanctification par le Seigneur. Or, ce ne sont pas des fautes graves. Ce ne sont pas des fautes morales épouvantables. Mais ce sont toutes ces erreurs, toutes ces irritations, tous ces problèmes qui ressortent dans le quotidien et qui trahissent un champ énorme pour la sanctification du Seigneur. Ce sont finalement des problèmes de fond. Et dans sa bonté, le Seigneur a donc fait une équipe. Une équipe pour travailler à la transformation, pour devenir ce que nous ne sommes pas encore. Dans cette équipe, on est invité à travailler ensemble. Et il est possible qu'il y en ait un dans l'équipe qui soit constamment en train de dire à l'autre « Mais il y a ça qui ne va pas, 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 il y a ça qui ne va pas. » Et de penser que chez lui, ça va beaucoup mieux. Permettez qu'on lise ce texte dans l'Épître de Jacques. Épître de Jacques, au chapitre 3. Permettez que je vous lise ce texte dans la traduction de la Bible français courant, qui rend très bien l'idée de l'original dans ce cas particulier. Jacques, chapitre 3, verset 2. « Nous commettons tous des erreurs et de bien des manières. L'équipe que le Seigneur a constituée n'est pas une équipe dans laquelle il y en a un qui dénonce toutes les fautes parce que lui va tout à fait bien. C'est en fait un travail d'équipe. La clé à ce travail d'équipe se trouve dans deux mots. Réciprocité et complicité. Vous comprenez, quand on est mari et femme, on est aussi et en plus frère et sœur dans la foi. Peut-être que cela peut donner une dimension différente à la dynamique de notre couple. Alors, j'aimerais vous suggérer ceci. Et si Dieu avait fait le mariage pour nous rendre meilleurs plutôt que pour nous rendre heureux ? Ou bien, et si Dieu avait fait le mariage pour nous rendre meilleurs plutôt que pour nous donner le bonheur ? Et si Dieu nous avait donné le mariage pour être meilleurs avant de devenir heureux ? Parce qu'en réalité, cette transformation à laquelle Dieu nous appelle, c'est la clé, c'est la porte qui nous conduit ensuite au bonheur. Si vous allez dans les librairies aujourd'hui, vous allez trouver une foule de livres sur le mariage. Regardez les titres, ils sont impressionnants. Comment être heureux en mariage? Comment réussir son mariage? Comment être épanoui dans votre mariage? Et ainsi de suite. Tous les modes d'emploi, quoi, les bons trucs. Mais quand je regarde ça, c'est un petit peu comme vouloir la couronne avant la croix. Oh, j'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. En réalité, notre sanctification conduit au bonheur, mais pas l'inverse. Ce n'est pas parce que je vais chercher le bonheur et la béatitude que j'aurai été transformé pour en bénéficier. Ainsi, quand nous ne reconnaissons pas les défis du mariage comme faisant partie du plan que Dieu a pour nous faire grandir dans la sanctification, alors nous sommes frustrés par le mariage qui ne nous donne pas ce que nous en attendions. Le mariage a été conçu par Dieu comme un outil de sanctification, pour nous rendre meilleurs, et pour qu'étant meilleurs, le bonheur puisse naître. Autrefois, nos grands-parents savaient que le mariage, c'est du gros travail. Ils le savaient. Aujourd'hui, les jeunes qui s'engagent dans le mariage sont affolés de découvrir tout d'un coup toute la responsabilité, tout ce que ça représente. On se marie pour être heureux, pour que l'autre réponde à nos besoins, mais tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a les exigences de la maison, il y a les bébés, et les bébés, s'il y a quelqu'un qui est centré sur lui-même, c'est bien un bébé. Il y a les factures, il y a le travail, il y a les enfants à l'école, il y a la fatigue, il y a la maladie. Et tout d'un coup, on s'écrit, mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué? On m'avait jamais dit que le mariage, c'était tout ça. Comment est-ce que je me suis laissé embarquer dans cette affaire? Et on oublie que tout ça fait partie du plan de Dieu pour que nous soyons des hommes et des femmes prêts pour son royaume. On oublie que tout ça, c'est un outil entre les mains de Dieu pour nous faire devenir ce que nous ne sommes pas encore. Mais vous savez, la mentalité a beaucoup changé. Avec le temps, on voit les choses autrement, même dans les milieux religieux. Pour nos grands-parents spirituels, il y avait une préoccupation essentielle qui était notre croissance spirituelle ou la sanctification. Regardez un petit peu, par exemple, comment le méthodisme a vécu. Ou regardez quels étaient les grands thèmes développés par les grands revivalistes, les revivalistes du Grand Réveil, qui est à cheval sur le 18 et 19e siècle. Ils cherchent à savoir comment on peut grandir en Christ, comment on peut être transformé à l'image de Christ, comment la sanctification peut véritablement s'opérer en chacun d'entre nous. C'est leur préoccupation, être transformé. Mais aujourd'hui, regardez la préoccupation essentielle des milieux chrétiens aujourd'hui, c'est d'être sauvé, d'avoir le salut, d'avoir l'assurance du salut. Seulement, ce grand changement dans la mentalité a aussi un grand changement dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se préoccupe de ce qui était la préoccupation des méthodistes ou des grands revivalistes, on va dire, oh, mais ça c'est du légalisme, ça, c'est du retour au salut par les œuvres. Le salut nous est donné pour être heureux, pour être sauvés, pour jouir du bonheur sur cette terre, en attendant l'autre. Et on oublie ce faisant qu'il y a juste un problème. Quand on est juste préoccupé de savoir si on est sauvé ou pas, il reste un problème. Il s'appelle le péché. Si on ne s'attaque pas au péché, il prend de plus en plus de place. Parce que le péché, il veut toujours plus. Le péché nous amène à descendre. Et vous savez très bien, pour l'avoir vécu comme moi, que quand on est dans la descente, les freins deviennent de plus en plus faibles. Et c'est de plus en plus difficile de s'arrêter. Dans le mariage, l'égoïsme et le péché, si on ne s'y attaque pas, il prendra de plus en plus de place. Et je demanderai de plus en plus de l'autre. Autrement dit, dans le mariage, comme dans l'Église, le péché doit être crucifié. Et vous savez, nous n'avons pas beaucoup de choix. Ou bien je laisse mon péché détruire mon mariage, ou bien je laisse mon mariage détruire mon péché. Je n'ai pas beaucoup d'autres choix. Dans une interview que Gary Thomas donnait à Jim Daly, Il disait ceci. Derrière chaque situation de dissatisfaction dans le mariage se cache un péché dont on ne s'est pas repenti. Vous aviez pensé au mariage de cette façon-là, vous ? Pourtant, je crois que mon mariage va changer quand je prends le mariage comme un moyen divin de crucifier le moi et le péché en moi. Ça donne évidemment au mariage une dimension tout à fait différente. Mais vous savez, Dieu a des plans incroyables pour nos mariages. Des plans époustouflants, dont nous n'avons généralement aucune idée quand on descend l'allée de l'église avec des petits cœurs dans les yeux. On n'y pense généralement pas. Et pourtant, c'est dans le texte biblique. Vous vous souvenez de ce passage qu'on a regardé tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 5, où la comparaison était faite entre Christ et l'église. Mais quand cette comparaison est faite, en réalité, le couple devient une image de Christ et de l'église. Mais ça, c'est une dimension incroyable. Lorsque je me marie, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'église. Mais ça, c'est un défi colossal. Et mes sœurs, ne vous plaignez pas. C'est infiniment plus difficile que de se soumettre à son mari comme au Seigneur. On a là un objectif incroyable. Et cet idéal, malheureusement, nous échappe trop souvent. Mais il y a plus que ça. J'allais dire, il y a mieux que ça encore. Prenez avec moi deux passages. Le premier dans Deutéronome chapitre 6. Nous avons là cette profession de foi extraordinaire. Une profession de foi biblique. En une phrase qui se trouve au verset 4. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Où il est dit, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Dans la traduction du rabbinat français. L'Éternel est un. Maintenant, prenez un texte dans le livre de la Genèse, voulez-vous, au chapitre 2. Genèse, chapitre 2, le verset 24, et je lirai ce texte dans la traduction en français courant, Genèse 2, verset 24, où il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. » Dans ces deux textes, le mot « un » et le mot « seul » sont la traduction d'un seul et même mot dans l'original de notre Bible. Mais tout d'un coup, je réalise que Dieu va utiliser le couple pour nous faire comprendre l'unité au sein de la divinité. Parce que le mot qui est employé pour dire que Dieu est un est un mot qui ouvre la porte à ce qu'il y ait plusieurs personnes dans la divinité. Mais elles ne peuvent pas être la divinité si elles ne sont pas complètement, entièrement soudées et unies. Alors, un jour, Dieu s'est assis et s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire pour faire comprendre à l'humanité l'amour, l'unité au sein de la divinité ? C'est complexe, ça. Comment est-ce que je vais faire pour que les êtres humains puissent comprendre ça ? Et tout d'un coup, le Seigneur a dit, ça y est, j'ai trouvé. Je vais créer le mariage. Amen.